Papa, non, en 2024, créer un site web n'est plus une galère, c'est même devenu ultra simple, et notamment grâce à des solutions comme Squarespace. Squarespace est la plateforme tout en un pour permettre aux entrepreneurs de se démarquer et réussir en ligne, et ce, quelle que soit la taille de leur activité. Vous allez voir, tout y est. Vous pouvez vendre vos produits physiques ou services en un temps record. Vous avez des centaines de templates de sites web canon dans tous les domaines. Vous pouvez créer vos campagnes email. Vous pouvez même vendre votre propre formation en ligne. Donc, si vous voulez donner à votre business toutes les chances de se développer avec un outil à la fois performant et très simple d'utilisation, eh ben, je ne peux que vous recommander d'aller sur le site squarespace.com. En plus, à l'occasion de ce partenariat, Squarespace vous offre moins 10% sur votre première commande de site web ou de domaine avec le code Pauline. Alors, n'attendez plus et rendez-vous sur squarespace.com, code Pauline. Mes chers amis, bonjour, ici Pauline Néniaud et bienvenue dans un nouvel épisode du Gratin. Avec le Gratin, je vous emmène toutes les semaines à la rencontre de personnalités toutes plus exceptionnelles et inspirantes les unes que les autres, des chercheurs, des entrepreneurs, des athlètes comme aujourd'hui des scientifiques qui ont tous un point commun, être parmi les meilleurs au monde dans leur domaine. Et l'objectif, c'est de vous aider via ces mentors virtuels à devenir la meilleure version de vous-même. Cette semaine, je dois vous dire que je reçois sur le gratin une des grandes, grandes personnalités du monde du sport, Renaud Lavillenie. Si vous souhaitez retrouver Renaud sur le monde merveilleux du web, eh bien d'abord allez faire un tour sur son compte Insta qui vaut le détour, R Lavillenie, je vous mets ça dans les notes de l'épisode, et puis pourquoi pas aussi sur son compte Facebook. Alors évidemment, vous connaissez Renaud de nom, donc je vais vous la faire courte et je vais pas vous faire surtout l'affront de vous lire sa bio comme j'ai l'habitude de le faire ici, parce que s'il y a bien un athlète qui est devenu une icône, et je pèse mes mots, dans son sport, c'est bien lui. Avoir un invité comme Renaud pour tout vous dire qui a tout fait, tout réussi dans son sport, le saut à la perche, donc jusqu'à arracher un record du monde vieux de 21 ans quand même, on se pose forcément la question, quand on est intervieweur comme moi, c'est qu'est-ce qui nous pousse à toujours continuer à se dépasser. Pourquoi est-ce qu'il se bat? Qu'est-ce qui le fait courir, ou plutôt sauter aussi haut? Dans cet épisode, Renaud m'a dévoilé l'envers du décor d'une vie de grand champion. Les entraînements, les échecs, les rebonds, les discours intérieurs et ce fameux mental de gagnant, qui est au fond la vraie différence entre un bon athlète et un grand champion. Une vraie leçon qui m'a fait beaucoup réfléchir pour ma part et qui, j'en suis sûre, s'appliquera à la vie de nombreux d'entre vous. Mais je ne vous en dis pas plus et laisse place à ma conversation avec Renaud Lavillenie. Écoute, Renaud, déjà, je voulais te remercier d'être sur le gratin. Je suis hyper heureuse que tu aies accepté l'invitation à distance en plus. Ça me fait vraiment très plaisir de t'accueillir. Ton parcours, évidemment, que tout le monde connaît, est ultra inspirant. J'ai essayé de trouver des questions. Ils sont des questions qu'on ne t'a pas trop posées. Ça va pas être facile.
Mais
j'ai réfléchi à comment commencer l'interview et en gros, je voulais commencer tout simplement par te dire quand on a comme toi un peu tout fait, tout connu dans ton sport, tout réussi aussi dans ton domaine. Ma question assez simplement, c'est qu'est-ce qui fait que tu continues aujourd'hui à te battre, alors peut-être pas là physiquement en ce moment avec le confinement, mais que tu continues, on le voit sur les réseaux, on sait, enfin je sais que tu étais en préparation pour Tokyo, à t'entraîner autant et à avoir, si tu veux, cette énergie, ce drive, ce mental qui ne te quitte pas. Tu es encore jeune, mais malgré tout, si tu veux, à un moment, on peut se dire... Bah, c'est bon, j'ai réussi, tu vois, j'ai coché la case, j'ai plus besoin. Donc, qu'est-ce qui fait que même si t'as plus besoin aujourd'hui, tu as envie de continuer à te dépasser et à prouver à toi-même certainement que tu peux faire encore mieux?
Bah, en fait, c'est au fond de moi. C'est-à-dire que la visualisation du fait j'ai coché la case, ça me suffit. Pour moi, j'en ai pas une, mais j'en ai des dizaines, des centaines, voire à cocher, donc ce qui fait que je suis toujours en requête de d'en avoir plus parce que j'aime ça, parce que j'adore ça, donc je considère que déjà j'ai la chance d'être le meilleur dans ma passion et donc ce qui me permet d'avoir une vie extraordinaire et d'avoir des aventures qui sont forcément dingues et ce qui fait que voilà, chaque année, forcément, ça passe. Maintenant, j'arrive dans une période où plus les années passent et plus ça va être difficile, on va dire, d'être le plus performant possible par rapport à ce que j'ai connu. Mais à côté de ça, ça enlève jamais le plaisir que je peux avoir, même que ce serait à l'entraînement. Et puis comme je suis un compétiteur hors pair au fond de moi, du coup j'ai toujours en fait soif de challenge, soif de défi, et ce qui fait que je me pose même pas la question de me dire pourquoi je continue en fait. Je le sais, c'est parce que j'ai ça dans le sang et que tant que je peux jouer, je continue quoi.
J'aime bien le fait que tu dis jouer, tu vois, ça je trouve ça très très cool. Mais tu disais tout à l'heure, malgré tout qu'avec le temps, ça va être de plus en plus difficile, même si une fois de plus, hein, t'as encore, j'imagine, de très très belles années devant toi. Est-ce que ça c'est un driver pour toi? Est-ce que le fait que justement maintenant ça soit presque plus un challenge parce que t'as des choses à perdre globalement, parce que t'as été, pendant tellement d'années le meilleur que maintenant, à chaque fois la compétition quand même, tu remets un peu en cause ton titre. Et puis d'autre part, tu le remets en cause en étant maintenant quand même, comme tu dis, c'est entre guillemets de plus en plus difficile parce que tu sais que dans 10 ans, ça sera peut-être plus la même chose.
Ouais, il y a de ça, et à la fois c'est aussi, c'est aussi pour moi, je pense, une vraie source de motivation. C'est-à-dire que il est évident que il y a 6-7 ans, quand j'étais au top et que entre guillemets c'était facile pour moi. Il y avait forcément le plaisir de réussir, le plaisir d'être au plus haut niveau et de faire ce que tu sais faire tous les jours. Mais je dirais justement maintenant avec l'âge, j'ai toute cette expérience, j'ai eu la chance d'avoir aussi tout ce vécu qui m'a énormément apporté. Et maintenant, limite une victoire, je dirais moins importante, peut avoir plus de valeur pour moi parce que je sais jusqu'à quel point j'ai été capable de puiser dans mes ressources, de puiser dans le travail, dans la préparation. Mmh. Et ce qui fait que ce côté un petit peu difficulté, parce que tous les éléments font que ça, c'est la suite logique, font que derrière ça peut être une plus belle récompense. Et ça me permet aussi de rebondir un peu sur ce que tu dis de maintenant j'ai tout à perdre. Et en fait, moi je considère l'inverse, c'est que maintenant j'ai tout à gagner parce que justement j'ai tout eu avant et que là c'est que du bonus en fait. Si je me rate maintenant, forcément c'est je m'en fous pas parce que de toute façon je suis pas forcément le style de mec qui aime perdre, mais en tout cas une chose c'est sûr, c'est que avec tout ce que j'ai eu derrière moi, les années qui arrivent devant moi, c'est que du bonus. Et puis ça donne aussi une nouvelle source d'inspiration pour aller encore plus loin, et avec forcément l'objectif, on a que Tokyo qui va arriver, on espère rapidement. Mais après on a tous ce rêve à Paris 2024, et quand t'es français, d'avoir les Jeux chez toi, ça doit être magique, parce que je peux pas le dire que pour l'instant, mais en tout cas l'objectif, il est forcément de s'accrocher jusqu'à là-bas quoi.
Tu vois, c'est ça ce que j'adore quand je parle à des grands sportifs, c'est que vous parlez tout le temps de rêve, et moi je me dis toujours mais finalement, Renaud, quand tu étais petit, est-ce que c'était déjà ça ton rêve, tu vois, de devenir champion du monde, champion olympique, enfin d'accomplir tout ce que tu as accompli? Parce que je me dis, mais c'est tellement fou quand on y pense. Je sais pas si tu réfléchis de temps en temps à ce retour quand tu étais plus jeune, tu vois, et te dire, quand j'étais petit, j'avais ce rêve et maintenant je l'ai fait. C'est quand même tellement rare. Je sais pas si c'est des choses auxquelles tu réfléchis et s'il y a eu un moment justement. Enfin, peut-être ma question du coup, c'est à quel moment est-ce que tu as vraiment eu ce premier rêve, tu vois, de devenir, je sais pas si c'était champion du monde, si c'était champion olympique, enfin juste d'en faire ta carrière à la rigueur, ce qui est déjà suffisamment rare pour être noté, franchement.
C'est compliqué à dire parce que le problème, c'est qu'il faut que je remonte 25-30 ans en arrière, ou que j'ai pas une mémoire d'éléphant aussi importante. Mais après, c'est vrai que quand j'écoute ce que dit mon père, ce que dit ma famille, mes proches ou quoi, je sais qu'au fond de moi, j'ai toujours été aussi un petit peu rêveur, et je pense que c'est ce qui m'a aussi aidé à avancer, parce que j'avais des rêves qui étaient ambitieux, qui étaient, voire je pense, réellement fous à l'époque. Et je me suis toujours accroché à quelque chose qui fait que quand j'avais 14-15 ans, j'étais des années-lumière d'être entre guillemets un bon perchiste, mais j'avais la chance de faire déjà cette discipline parce que je l'aimais. Et derrière, après, je me suis pas posé la question de savoir pourquoi j'en fais. Le problème, c'est que il y en a beaucoup qui font du sport parce qu'ils sont bons, et donc du coup, ça fausse un petit peu la trajectoire. Moi, j'ai toujours pratiqué parce que j'aimais ça, et j'ai eu la chance de devenir bon sur le tas, et ce qui fait que ses rêves de gamin. Tout le monde rêve quand il est gamin, s'il fait du sport, il veut être champion du monde, il veut être, comme son grand idole ou tout ça. Et ce qui fait que, à un moment donné, tu sais que la réalité versus ton rêve, des fois, t'as un fossé qui est infranchissable. Et moi, j'ai eu cette chance de tout mettre en œuvre pour y arriver et puis de franchir ce fossé, voire même plus que de le franchir, parce que je pense que j'aurais jamais rêvé pouvoir avoir le record du monde et autant de, enfin, une carrière aussi remplie que j'ai pu avoir. Donc c'est quelque chose où c'est la beauté des destins, quoi. C'est comme ça, il faut pas se rater, mais par contre si tu te donnes les moyens, ça peut être grandiose, quoi.
C'est incroyable. Et quand tu parlais de toi plus petit, tu disais j'étais plutôt pas très douée quand j'étais petit. Je t'avoue que j'ai un peu de mal à le croire. Mais en même temps, je trouve ça plutôt rafraîchissant, parce que je me dis, si Renaud Lavinoni était pas doué en perche quand il était petit, tout est possible, tu vois. Et tu peux m'en parler? Enfin, vraiment, déjà, comment tu t'es lancé dans le monde de la perche? Parce que bon, je sais que ton père pratiquait, mais tu peux nous parler de ça, parce que je pense que c'est quand même pas le sport, si tu veux, auquel on pense en premier. Et t'étais vraiment pas très doué quand t'étais petit?
Ah non, ouais, j'étais vraiment. En fait, le truc, c'est que voilà, mon père faisait de la perche quand je suis né, enfin depuis que j'étais tout gamin. J'ai des images de moi. Alors, faut remonter à ça dans la fin des années 80 aussi, hein, donc c'est pas le même contexte qu'actuellement. On n'a pas le même accès aux informations, à la vidéo, etc., etc. Je sais que j'ai des images dans mon jardin où mon père m'avait coupé une tringle à rideau et je mimais du saut à la perche. J'avais 3 ans et demi, 4 ans.
Ah ouais.
Et ce qui me fait rire, c'est que j'ai une petite fille qui a 3 ans et demi et a fait exactement la même chose. Et donc, du coup, je revois un petit peu des choses de quand j'étais tout gamin. Donc, ça me fait sourire. Après, c'est pas le destin qui ira, mais en tout cas, c'est assez marrant. Et de mon côté, ouais, je suis venu à la perche au début parce que je voulais faire comme papa, on va dire comme tout le monde. Et puis surtout, c'est que derrière, j'ai tout de suite accroché et je me suis jamais posé la question de me dire qu'est-ce que je veux faire après. J'ai fait d'autres sports, déjà rien qu'en athlée, je faisais du sprint, un peu de lancer, du saut. Mais dès que j'avais une opportunité de faire de la perche, c'était la perche à tout prix. Et puis même après, quand j'étais au collège, j'ai pratiqué un peu, j'ai fait un peu de basket, j'ai fait 2-3 trucs, mais vraiment, le sport que j'aimais, c'était la perche. Et pour revenir vraiment sur le côté performance, pour se donner un ordre d'idée, si je prends la catégorie des moins de 20 ans, j'avais juste le niveau pour me qualifier au championnat de France. On va dire déjà, c'est pas mal. Mais par rapport à quelqu'un de mon niveau à 25 ans, tous ceux qui sont au plus haut niveau à 25 ans, quand ils ont moins de 20 ans, ils sont déjà parmi les 5 meilleurs de leur pays, voire les 5 meilleurs du monde. Et moi, c'était loin d'être le cas. J'étais à grosso modo, j'étais à plus d'un mètre du record de la catégorie à l'époque. Et donc, du coup, ça a été tout un entre guillemets, un retard que j'ai comblé. Mais j'ai eu la chance que entre 2002 et 2009, je battais mon record tous les ans. Et je passais des caps qui pouvaient être de 5 cm allant jusqu'à, je crois qu'en une, il y a une année où j'ai pris 80 cm. Donc ça va super vite, quoi. Donc après, forcément, on stagne, mais j'ai eu une période où la progression a été assez importante. Et ce qui fait que, forcément, plus tu gagnes et plus t'as envie de continuer. Donc, ça m'a vraiment motivé à garder ce cap. Et puis, après, c'est quelque chose qui est aussi important à savoir, c'est que physiquement, on est pas tous égaux sur le développement. C'est-à-dire que moi, quand j'étais ado, j'étais pas très costaud, j'étais pas très grand. Enfin, voilà, j'étais.
C'est un peu embêtant pour la perche, quand même.
c'est-à-dire que ouais, c'est quand même un peu, ça peut être handicapant entre guillemets, quoi. Ouais. Et ce qui fait que je me suis développé un peu plus sur le tard. Il a fallu que j'attende d'avoir 20-21 ans pour vraiment commencer à prendre un petit peu de muscle et à finir ma croissance. Ce qui fait que, avant ça, je pouvais pas matcher face à des mecs qui font déjà une tête de plus que toi. Tu te poses pas la même question, quoi. Mais c'est ce qui m'a aussi, je pense, nourri, entre guillemets, forgé mon intérieur, parce que, derrière, je savais pourquoi j'étais là, quoi. Et puis, après, voilà, ça dure depuis, depuis plus de 10 ans au plus haut niveau et puis j'ai toujours la même flamme que quand j'avais 15 ans à l'intérieur, donc ça c'est quelque chose qui est vraiment top.
Bah c'est ça, c'est assez. Enfin, j'aime beaucoup le message que tu fais passer quand tu dis, tu vois, finalement, j'étais pas le meilleur à l'époque, mais du coup, c'est ça qui m'a aussi fait mon caractère, mon mental. Je pense qu'il y a beaucoup de jeunes qui nous écoutent et que ce soit dans le sport, tu vois, ou dans d'autres domaines. Moi, j'aime bien faire des liens avec d'autres domaines. Au final, c'est pas parce qu'on n'est pas le meilleur tout de suite qu'on va pas réussir. Et en l'occurrence, toi, j'ai l'impression que tu l'as presque vu comme une chance de pas tout de suite. Casser tous les records et être tout de suite, tu vois, le meilleur de ta catégorie, parce que finalement, souvent, les gens qui ont trop de facilité au départ, qui ont vraiment un talent de base hyper, tu vois, hyper net dès le début, ben, ils se reposent un peu sur leur laurier. Je sais pas si tu es d'accord avec ça, enfin, parce que j'ai l'impression que c'est un peu ce que tu disais.
Ouais, c'est complètement ça. Alors après, c'est pas véridique pour tout le monde, mais dans l'absolu, si je prends ne serait-ce que le cas en France et à la perche, des jeunes talentueux, on en a vu, je dirais pas chaque année mais presque, et par contre des bons jeunes qui sont restés bons jusqu'en senior, on en a vu beaucoup moins, et puis surtout c'est qu'on en a vu beaucoup qui ont été capables d'être bons, de gravir les étages, et à un moment donné partir en fumée parce que en fait voilà, ils sont entre guillemets pas faits pour ça, donc c'est vrai que moi, c'est pour ça que je le dis, que ça a été une force, parce que au-delà en plus du mon côté personnel, c'est que je suis arrivé dans une discipline qui est quand même une discipline qui a vraiment bien marché en France depuis des décennies. Donc quand tu passes derrière les vignerons, Galfion, Quinon, Collet, enfin qui ont tous forcément
pas facile de se faire un nom, du coup.
Ouais, c'est pas le truc que tu te dis, bon, c'est ça va être de la tarte, ils vont être faciles à effacer. Et le truc, c'est que ne serait-ce que déjà, il y en a beaucoup qui disaient non, mais de toute façon, Renaud, c'est bien ce que tu fais, mais jamais t'arriveras à faire plus de 5m80 ou ce genre de truc. Et puis bon, ça déjà, c'était, j'irais, un côté optimiste. Hein. Et en fait, la plupart, beaucoup de ces personnes qui m'ont dit ce genre de choses, en fait, n'avaient pas compris pourquoi je faisais de la perche. Et ce qui fait que ça a un peu changé du coup maintenant, l'idée reçue du sport de haut niveau, c'est-à-dire que, enfin, en tout cas pour nous à la perche, il y en a beaucoup qui ont compris que il fallait aussi avoir cette petite dose de plaisir, cette petite dose ludique pour, continuer tous les jours. Et ce qui fait que il y en a beaucoup qui se sont dit non, mais de toute façon, si j'arrive pas à avoir tel niveau, j'arrête parce que j'arrête. Et là, on fait arrête tout de suite, au pire, comme ça tu perds du temps pour rien. Et enfin, moi, c'est pas la conception que j'ai. Et c'est pour ça que je suis vraiment aussi en admiration par rapport à certains athlètes avec qui je m'entraîne, qui continuent et qui ont eu un jour un bon niveau et après qui redescendent, mais qui n'arrêtent pas parce que voilà, ils aiment ça, c'est leur truc. Et je trouve que ça, c'est beaucoup plus respectable que des athlètes qui ont touché le top et dès qu'ils commencent à peine à descendre, hop, ils arrêtent parce que en fait, c'est pas leur truc, quoi. Donc c'est vraiment une notion très très particulière, mais je pense que pour les jeunes, c'est vraiment un bon message parce que on est tous attirés par ce qui brille, ce qui est logique, mais si voilà, si on n'aime pas le faire, à terme c'est une perte de temps, quoi.
Et du coup, tu dirais que alors c'est peut-être une question un peu conceptuelle, hein, mais la différence entre un bon athlète et un grand athlète, c'est presque pas vraiment la technique, en fait. J'ai l'impression, c'est d'après ce que tu dis, plus cette passion, quoi, ce mental, ou autre chose peut-être. Enfin, pour toi, ça serait quoi la différence?
Ouais, il y a une vraie part psychologique, mentale, qui est à prendre. Alors après, entre un bon et un très bon, c'est tout dépend, on va dire du niveau, mais on sait que ça peut faire la différence parce que voilà, physiquement j'ai pas plus de qualités que tout le monde, mais par contre je pense que les qualités que j'ai, elles sont dans la tête, et ce qui fait que c'est quelque chose qui est pas visuel, où on peut pas mettre un doigt dessus, parce que c'est pas un chrono comme le 100 mètres, c'est pas la force comme de la muscu ou quoi, donc du coup c'est quelque chose qui est pas vraiment perceptible de manière directe. Et ça, on voit que ça fait vraiment la différence. Et tu vois là, j'ai cette année depuis quelques semaines, j'ai mon groupe qui s'est un peu étoffé. Je suis le plus vieux et de loin. Mais du coup, j'ai des petits jeunes qui sont là et dans les jeunes, je dirais, c'est pas forcément les qualités physiques que l'on va regarder en premier, mais vraiment les qualités psychologiques, les qualités mentales, de savoir pourquoi ils sont là. Et je pense que j'en ai un ou deux qui sont peut-être en passe de faire des grandes choses. Mais voilà, après, il faut que tout suive, parce que si t'as la tête mais pas les jambes, ouais, t'iras jamais bien loin. Donc
ouais, puis il faut avoir la tête dans le temps aussi, c'est comme tu dis, quoi, et les jambes dans le temps, parce que ça se fait pas en 48 heures, quoi.
Non, ouais, il faut pas avoir peur de l'échec, il faut pas avoir peur d'être obligé de se battre pendant certaines semaines, mois ou années, mais après faut savoir où on met ses objectifs et pourquoi on y va, quoi.
Je voulais te demander, Renaud, s'il y avait tu parlais de cases au début à cocher, s'il y avait une case quand même qui avait été particulièrement importante pour toi, j'imagine celle que tu viens de dire, mais quand même, que tu as coché, je veux bien que tu me racontes quand c'est arrivé, le moment où tu as eu ce succès, que ce soit le record du monde, que ce soit, je sais pas, peut-être les Jeux Olympiques, je sais pas, mais un truc que tu aurais fait, ou peut-être quand tu étais petite en rêvais, je sais pas, tu l'as fait. Est-ce que tu peux me décrire qu'est-ce qui se passe à ce moment-là dans ta tête? Qu'est-ce que tu ressens? Comment tu le vis? Parce que je pense que ça, c'est des sensations que, sincèrement, très très peu de personnes au monde vivent. Et toi, tu l'as vécu. J'imagine que c'est assez grisant et que c'est assez. Enfin, ça doit être une sensation assez dingue quand tu as travaillé pendant des années, des années et des années, parce que c'est ça qu'il faut visualiser pour arriver à un moment qui se cristallise en quelques secondes. Et donc, je sais pas si c'est possible avec des mots de l'exprimer, mais est-ce que tu pourrais me dire qu'est-ce qui se passe dans ta tête au moment où tu touches cet objectif pour lequel tu as travaillé pendant, mais parfois 20 ans?
Je pense que de toute façon, j'ai deux exemples qui sont les plus parlants. C'est le titre olympique en 2012 et le record du monde en 2014. Mais je dirais dans l'absolu, le titre olympique, il est encore plus important, parce que c'est vraiment quelque chose où tout le monde peut s'imaginer, peut se mettre à rêver de ça, parce que forcément les Jeux Olympiques, ça parle depuis des décennies, ça fait rêver les jeunes, les plus anciens, ça fait rêver tout le monde, vraiment on sent que le fait que ce soit une compétition qui soit une fois tous les 4 ans, ça donne vraiment ce côté exceptionnel, ça donne ce côté vraiment aussi compliqué et difficile à atteindre. Parce que vraiment, moi, en 2008, je suis passé à 4 cm d'aller faire les Jeux Olympiques à Pékin. Et donc, pour 4 cm, on dit, ouais, c'est dur, mais bon, voilà, c'est comme ça. Et derrière, après, 3 mois après, j'ai battu mon record. Et puis après, on va dire, la machine était lancée. Mais ce qui fait que entre ces 3 mois d'après et Londres, il s'est passé plus de 3 ans et demi, quasiment 4 ans. Et on sait à quel point en 4 ans il peut se passer énormément de choses. Et donc pour moi, c'est vrai que Londres, les Jeux Olympiques, c'est l'événement le plus important, parce que tu te fais plein de scénarios dans ta préparation, et puis il y a même le jour J, quand t'es sur la compétition, que tu, de toute façon, t'as plus le choix, tu t'as fait en sorte que tout se passe pour le mieux, pour être le meilleur sur cette compète, mais tout ne dépend pas de toi non plus. Parce que t'es en concurrence aussi avec les adversaires, et que à ce moment-là, bah forcément tous les coups sont permis, et puis il faut être capable aussi de répondre à chaque fois. Et pour moi, j'avais en plus, je dirais dans l'absolu, la chance d'avoir le dernier champion olympique en athlée français de saut la perche, qui était Jean Galfionne. Avec qui j'étais très proche, qui du coup a pu me, je dirais pas qu'il m'a donné des conseils, qu'il m'a coaché ou quoi, mais il a pu être une source de d'apaisement et de motivation à la fois sur cette compétition là parce que je savais que voilà, c'était
une pression énorme, quoi.
Ouais, il y avait une pression qui était assez énorme, mais à la fois je me dis, voilà, je suis pas le premier à faire ça. J'ose imaginer que je serais pas le dernier non plus, et que surtout, c'est que voilà, j'ai la chance de continuer cette histoire de la perche française au plus haut niveau, et après, c'est juste que quand t'es sur la compétition, faut arriver à scinder, en fait, à se dire que, bah, certes, ouais, t'es aux Jeux Olympiques, t'as une ambiance qui est complètement électrique, c'est, tu sais que dans l'absolu, tu joues ta vie, ta carrière, enfin ta vie sportive sur voire même un saut. Ce qui fait que même pour moi, c'est ce qui s'est passé avec le scénario incroyable. Mais au final, faut aussi relativiser en se disant, ouais, mais c'est une compétition de saut à la perche et il faut pas que je cherche à faire les choses différemment. Et c'est vraiment ça, je pense, qui m'a aidé, c'est que j'ai été capable, déjà d'une, de me faire confiance à moi à 100%, et d'éviter de me faire déstabiliser par tout ce qu'il pouvait y avoir à côté. Et le moment où je passe les 5m97 qui sont synonymes de d'or olympique, parce que derrière il restait un seul essai pour les deux Allemands, je savais au fond de moi, je savais que là c'était gagné, bon, avec tout le scénario du concours. Et la première réaction, alors forcément, j'ai tendance, on va dire, à laisser le corps s'exprimer. C'est-à-dire que plein de fois, de toute façon, on voit, je suis en train de crier, de courir dans tous les sens. Parce que, voilà, je pense qu'il y a aussi ce besoin d'extérioriser tout ce que l'on a mis en appelant sous pression, et c'est ce qui nous permet aussi d'être performant. Et après, c'est surtout, j'ai mis du temps réellement à prendre conscience de ce que j'ai pu faire. Et je sais que Jean a été la première personne à me le dire. Il m'a dit, écoute, là, t'en as pour des semaines, voire des mois, avant de te rendre compte de vraiment ce que tu viens de faire. Et puis, c'était vraiment le cas. Hein. Il m'a fallu quand même pas mal de temps avant de prendre conscience, de comprendre ce que c'est d'être champion olympique dans ta discipline, quoi. Et après, par contre, honnêtement, c'est que du bonheur. Hein. C'est quelque chose qui est incroyable, et c'est à ce moment-là où on peut revenir même sur le débat du début, de se dire, bah voilà, c'est fait, qu'est-ce que je fais de plus maintenant? Tellement de choses à faire après que derrière, je pense indirectement que le titre olympique à Londres m'a permis d'aller chercher le record du monde un an et demi après, parce que je pense que au fond de moi, ça m'a libéré, ça a dû déverrouiller quelques trucs. Et puis j'ai pu continuer de ma progression, donc c'est vraiment un moment qui est incroyable et qui est ultra compliqué aussi à expliquer, à faire ressentir, parce que voilà, c'est des émotions qui sont très intimes, très personnelles, je suis pas le meilleur pour décrire des émotions, parce que de toute façon, quoi qu'il arrive, déjà, c'est quelque chose qui est super dur, quoi.
Tu te débrouilles très bien, t'inquiète pas. Non, mais je te remercie. Je pense que ça permet de un tout petit peu, tu vois, visualiser ce que t'as pu vivre. Et justement, tu m'as fait une belle transition, parce que je voulais parler avec toi de préparation mentale, sans, tu vois, révéler des secrets, parce que j'imagine qu'il y a aussi des choses que t'as envie de garder confidentielles. Mais c'est quand même tellement une histoire de mental de ce que tu me dis. Je me dis, il y a forcément quelque chose dans ta vie que tu fais pour réussir à garder les conditions du succès. Et notamment là, quand tu me dis, tu vois, finalement, il y a toute cette pression autour. Je me rends compte que ce que j'ai réussi à faire cette fois-là, c'est à presque faire un peu abstraction du monde et juste à me recentrer sur moi et avoir confiance en moi. Et en plus, ce qui est hyper intéressant dans ce que tu dis, c'est que c'est cette confiance qui après te donne la possibilité d'aller chercher le record du monde, parce que avant ça, peut-être que tu n'aurais pas cru que c'était possible, et finalement, c'est parce que tu as commencé à y croire que tu as réussi à le faire. Et ça, c'est fou quand on y pense, mais c'est dingue. Et du coup, est-ce que tu pourrais, je sais pas exactement comment te poser cette question, mais me dire, est-ce que tu as une préparation mentale particulière? Est-ce que tu as des rituels? Est-ce que tu as des exercices que tu fais pour justement essayer de te mettre en condition pour éviter de te faire, détourner ton attention quand typiquement tu es sur une compétition, mais même peut-être à l'entraînement ou au quotidien?
Alors, j'ai pas de préparation mentale vraiment spécifique. C'est-à-dire que j'ai jamais travaillé avec un préparateur mental ou un psychologue ou ce genre de personne, parce que ça a été un choix de ma part. Et en fait, je suis parti d'un constat qui est que dans un entourage sportif de haut niveau, d'autant plus quand on est individuel, on a quand même pas mal de personnes, on a un cercle de confiance qui est quand même assez assez important. Et même si c'est que 3 à 4 personnes, c'est déjà quand même assez conséquent. Plus en fait on a des personnes dans notre entourage, et plus on est amené à avoir plusieurs informations qui peuvent être aussi contradictoires, et donc ça peut être aussi déstabilisant. Alors forcément, tout le monde, son travail, c'est d'être en harmonie pour que l'athlète puisse se sentir le mieux possible, mais voilà, on n'est jamais sûr à l'avance. Et puis j'ai eu différentes expériences au long de ma carrière qui m'ont donné envie de continuer ce rythme, parce que par exemple j'ai ma femme qui elle aussi fait du saut à la perche, qui a eu un bon niveau, elle était au niveau national, et justement elle avait des blocages psychologiques, ça se passait très bien à l'entraînement, et en compétition il y avait toujours des petits trucs qui allaient pas, et qui fait qu'elle a jamais réellement sauté au vrai niveau de ce qu'elle aurait pu faire. Elle a sollicité justement un préparateur mental, et j'ai eu l'occasion de pouvoir pas mal échanger avec lui, pas mal aussi échanger avec ma femme sur ce qu'il faisait. Et en fait, quand il m'expliquait ce qu'il faisait, je me suis rendu compte que moi, c'est ce que je faisais déjà
naturellement, quoi.
Et donc, du coup, je me suis dit, entre guillemets, pourquoi me rajouter un élément, alors que je le fais déjà. Alors, certes, peut-être que je suis passé à côté parce qu'il aurait pu développer encore beaucoup d'autres choses, mais à la fois c'est aussi, je dirais dans l'absolu, une sorte de fierté personnelle de se dire que j'ai réussi avec mes propres moyens, et puis surtout c'est que du coup je suis dépendant de moins de personnes, et quand tout va bien généralement on se pose pas trop la question, mais quand ça commence à déraper un petit peu, évidemment plus on est dépendant de personnes, et plus c'est compliqué à mettre en place. Donc c'était vraiment un questionnement, mais au final j'ai fait ce choix-là, et j'ai eu des expériences inverses où justement mon histoire, mon rapport avec les championnats du monde est très intéressant, parce que compétition que j'ai jamais gagnée, toujours placée, enfin 5 fois sur le podium en 6 éditions, et par contre toujours raté la première marche pas mal de fois pour des bêtises le jour J, ce qui était vraiment très frustrant, et justement il y a eu une période où il y en a 2-3 qui me disent ouais mais il faudrait que tu fasses ça mmh. Peut-être parce qu'il faudrait que tu changes un peu ton comportement sur la compétition, que tu sois plus cool, parce que normalement d'habitude t'es un peu fermé et tout. Et une fois, je me suis laissé les écouter en me disant, peut-être qu'ils ont raison. Et en fait, je suis sorti de mon personnage, entre guillemets. C'est-à-dire que je suis sorti du vrai Renault compétiteur, et j'ai essayé de suivre celui qu'on pensait être capable de pouvoir faire gagner ces championnats. Et puis en fait, ça a été, pas que ça a été un fiasco. Hein, j'ai réussi quand même encore à sauver une médaille, mais paradoxalement, c'était l'année réellement où j'étais le plus fort, et c'est l'année où j'ai été le moins bon sur les championnats parce que j'ai pas fait ce que je devais faire. Et derrière, comme de par hasard, 10 jours après, j'ai une compétition importante, et là je me dis bon, je remets mon setup normal, et puis je gagne sans difficulté, et derrière. Je me suis dit non, il faut pas que je me laisse déstabiliser en fait par d'autres, et surtout pas par des personnes dont c'est pas la profession ou qui me connaissent pas entièrement, parce que après voilà, ce qui est compliqué c'est que on sait qu'il y a des athlètes qui travaillent avec des préparateurs depuis des années, depuis limite leur adolescence, et l'avantage d'avoir une relation de très longue durée c'est que du coup les deux se connaissent parfaitement, et donc ils peuvent vraiment avancer. Moi là maintenant, je sais que je me pose la question des fois de me dire est-ce que ça vaudrait le coup de faire une ou deux séances, et puis en fait je me retrouve le temps que je en fait le fait de me faire cette démarche là dans ma tête fait que en fait indirectement je mets les choses en place moi-même à l'entraînement pour y arriver, et du coup en fait j'en ai presque plus besoin. C'est quelque chose qui est assez particulier, parce que c'est un domaine où clairement on peut pas trancher, quoi. On est incapable de dire si, à l'inverse de l'entraînement, on sait que si tu t'entraînes, tu te donnes les moyens de progresser. Si tu t'entraînes pas, tu sais que tu n'arriveras pas à progresser. Là, clairement, sur le côté prépa mental, Il y en a où c'est inné.
Il y en a pour qui ça marche.
C'est ça. Bon.
Alors, plusieurs questions pour toi. Déjà, ce qui est rigolo dans ce que tu me dis, c'est qu'en fait, ça, moi, je suis, tu sais, entrepreneur et il y a beaucoup d'entrepreneurs qui écoutent ce podcast. Et en fait, ça me rappelle énormément, finalement, les conseils qu'on a quand on lance sa boîte. En fait, la terre entière te donne des conseils sur ce qu'il faut que tu fasses, ce qu'il ne faut pas que tu fasses. Ça, c'est bien, ça, c'est pas bien. Et en fait, à un moment donné, tu as tellement de bruit autour de toi, mais que tu ne sais plus quoi faire. Et finalement, c'est dans ces cas-là que tu prends les décisions les plus foireuses et que tu te rates. Et moi, je me rappelle qu'un des conseils qui m'a le plus marqué au début de ma carrière entrepreneuriale, c'était il y a 10 ans, quelqu'un qui m'a dit « Le meilleur conseil que je peux te donner, c'est n'écoute jamais les conseils des autres. C'est ton business, c'est toi qui le connais. » Et c'est un peu, tu vois, excessif. Mais en réalité, je me reconnais du coup beaucoup à ma petite échelle dans ce que tu dis, qui est qu'il y a un moment donné, ben, en fait, si jamais la personne qui te donne un conseil, elle te connaît pas, on va dire, avec ses tripes de A à Z, c'est très, très difficile de donner un avis extérieur. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas, tu vois, écouter les signaux extérieurs et voir la réalité en face, avoir du recul. Mais en même temps, je trouve que c'est hyper important aussi de savoir dire « Non, mais en fait, je garde ma méthode, c'est ce qui marche pour moi. » et tu vois, finalement, avoir cette détermination et d'une certaine manière, cette rigidité qui te permet aussi de savoir dire non quand tu as 150 000 personnes, parce que toi, je peux imaginer qu'en plus, à ton niveau, mais la terre entière doit te faire des remarques, ce qui est quand même le comble quand on y pense, vu que tu arrives quand même assez bien à ta manière, quoi.
Non, on a des bonnes anecdotes avec mon coach. Ouais, souvent, en période de championnat, parce que c'est ce qui est le plus médiatisé, donc du coup c'est là où le plus de personnes s'intéressent à ça, et le nombre de fois où on a reçu des propositions, mais de tout genre, hein, des trucs pour aller voir pas des gourous mais limite, enfin des trucs, mais c'est incroyable, et nous ça nous a toujours fait sourire, mais limite aussi je dirais à Clermont ou quoi, enfin à Clermont ou même ailleurs, hein, des gens qui sont limite capables de venir nous interpeller ou d'interpeller mon coach ou disant il faudrait qu'il fasse ça parce que là ça va pas du tout, oui merci
c'est
monsieur,
c'est pas du tout, ouais. Merci non, pour votre avis, je reprends note.
C'est assez incroyable, mais c'est vrai que je rejoins complètement ce que tu viens de dire, c'est que à un moment donné il faut se dire que la décision elle vient de toi, parce que c'est quoi qu'il arrive, c'est la meilleure manière pour accepter l'échec aussi. C'est-à-dire que j'ai du mal à accepter l'échec si ça vient d'une décision qui n'a pas été prise de mon propre gré, quoi. Et par contre, après, là où il faut être conscient, c'est que il faut aussi avoir notion de ce qui se dit, de ce qui peut se faire, parce que si on sait pas, comme des idiots, mais c'est vrai que c'est aussi avoir une forte personnalité de se dire j'écoute. Et après, je vais être capable de faire le tri dans tout ça et puis de me faire ma propre opinion.
Et de savoir s'écouter, quoi.
Mon propre choix. Mais c'est vrai que mais ce qui fait que dans l'absolu, c'est quelque chose qui est pas non plus donné à tout le monde. Et c'est ce qui peut aussi faire la différence entre les très bons et le moins bon, parce que le très bon aura toujours tendance à prendre les bonnes décisions, à l'inverse du moins bon qui, quand il a réponse A, réponse B, il va prendre toujours la mauvaise, et donc du coup, il n'arrivera pas.
Voire pire, il va essayer de faire les deux.
Ouais, c'est un peu ça. Donc c'est vrai que ça, c'est il y a ce côté un petit peu force en soi naturel qui est là et qui doit s'exprimer quoi qu'il arrive.
Et tu disais tout à l'heure, Renaud, que tu sais, dans le cadre de la préparation mentale de ta femme, en fait, il y avait des choses que toi-même t'appliquais naturellement. Que tu faisais, en fait, c'est pas forcément de la préparation mentale, mais je sais pas, que tu faisais. Est-ce que tu pourrais me donner un exemple spécifique?
Ouais, un truc qui est ultra spécifique, c'est l'optimisme, la positivité, le côté positif. C'est-à-dire que moi, je vais avoir tendance je vais arriver sur un meeting, sur un concours, je vais toujours essayer d'optimiser, d'être optimiste, de voir le côté positif, de dire, même si ça va pas, j'ai pas de jambes ou quoi. Allez, je vais toujours voir le verre à moitié plein, et l'inverse justement de ma femme comme plein d'autres, c'était souvent dès qu'il y a un petit truc qui va pas, pof, on descend d'un étage, et donc du coup on se met directement en difficulté alors qu'on n'a même pas encore commencé. Et ça c'est vrai que moi je pense que on me verra jamais me dire non c'est pas possible. D'abord j'essaye, après après je verrai si c'est possible ou pas, alors qu'il y en a, ils ont même pas encore essayé ou quoi, que ils sont déjà en train de faire demi-tour. parce que c'est pas leur vision. Donc ça c'est une de mes caractéristiques, et puis ouais, de jamais lâcher le morceau, hein. Donc ça c'est quelque chose qui est inné et qui fait que même moi, maintenant je me surprends en me disant ouais, 34 ans, ça fait plus de 10 ans que je fais ça à bloc, ça serait peut-être normal, enfin du moins ça serait pas illogique d'avoir des moments de relâche un petit peu, ouais. Ou quoi, et puis en fait là je vois que chaque semaine à l'entraînement avec les camarades là, je suis toujours à bloc, et puis on a beau avoir 10-15 ans d'écart, il y a pas de problème, il faut que je gagne, quoi. Donc c'est ça fait partie du jeu, et après voilà, c'est pas pour autant que je vais gagner tout le temps, mais en tout cas je vais jamais lâcher le morceau, et que je sois dans mon élément ou pas, et ça c'est forcément un trait de caractère qui a son importance dans le haut niveau, quoi.
T'as quand même déjà eu des moments de doute, de moins bien, de juste en fait peut-être envie d'arrêter aussi, de passer à autre chose, ou vraiment strictement ça t'est jamais arrivé?
Non, jamais eu envie de passer à autre chose. Après j'ai eu des moments où je dirais pas je commençais à baisser les bras, mais en fait j'avais ce, ça a été aussi un de mes défauts, c'est que j'ai eu une petite période entre
aussi un de 2000... mes défauts, tu dis ça comme si vraiment.
Non mais en fait c'est que entre clairement entre 2017 et 2019 j'ai eu pas mal de blessures. Et en fait à partir du moment où j'en ai eu une, j'ai eu du mal à vraiment, alors je dirais pas faire les bons choix, mais le fait que j'aime trop ça et que je sois vraiment passionné fait que j'avais du mal à concevoir de rester une semaine de plus sans pouvoir la pratiquer, et ce qui fait que deux trois fois ça m'est arrivé où forcément j'ai voulu reprendre un peu trop tôt, et le un peu trop tôt fait que derrière ça a recassé. Et puis au lieu d'attendre deux semaines et d'être tranquille, je reprenais, et puis derrière après j'étais reparti pour 4-5 semaines, et ça m'a fait défaut, ça m'a fait rater deux saisons hivernales en 2017 et en 2010, attends, quand c'est que j'ai fait ça, ouais, 2017 et 2019. Voilà, c'est vraiment un peu le côté un petit peu j'en veux trop, quoi. Mais mais à la fois je peux pas m'en vouloir, parce que c'est aussi ce qui m'a fait ma force. Alors après c'est toujours pareil, hein, l'expérience personnelle est toujours la meilleure, donc c'est pas faute d'avoir eu des conseils de dire non faut pas que tu le fasses, etc. Mais alors maintenant voilà, je sais que je suis un peu plus sage, j'essaye d'attendre un petit peu, mais en tout cas c'est compliqué, mais même quand j'étais au fond en difficulté, que j'étais pas bon, j'arrivais pas à décoller comme je voulais, je me posais pas la question de me dire est-ce que c'est le moment d'arrêter. Non, c'est je pense que ça sera pour moi jamais le moment d'arrêter, quoi qu'il arrive, la question sera même pas à se poser, quoi.
Trop cool. Et là, avec la période quand même qui est vraiment difficile pour tout le monde, notamment, j'ai déjà eu la chance d'inviter d'autres sportifs de haut niveau, d'athlètes qui s'entraînaient pour les JO de Tokyo, avec du coup l'incertitude totale du moment. Quel est ton état d'esprit, ton mindset en ce moment vis-à-vis de ça? Parce que c'est un tel objectif, c'est un tel travail. Enfin, je peux imaginer à quel point t'es obligé de mettre toutes tes tripes en fait dedans, parce qu'en plus, comme tu le disais, quoi, c'est tous les 4 ans, donc faut quand même pas se foirer. Et là, en fait, juste, c'est comme si on vous enlevait le truc, quoi. Enfin, c'est absolument à la fois terrible. En même temps, bon, je peux imaginer que tu peux rien y faire. Donc voilà, il n'y a pas grand chose qui est en ton pouvoir. Mais je sais pas quelles sont tes sensations, tes émotions vis-à-vis de ça.
Écoute, ça a pas mal évolué, forcément. On a eu un premier épisode en mars 2020 qui a été dans l'absolu assez compliqué, parce que forcément en mars on était à 4-5 mois de 4-5 mois de l'échéance, donc là c'était soit t'es prêt soit t'es pas prêt, hein, parce que si t'es pas prêt en mars, enfin dans l'absolu préparation globale, voilà, c'est pas en 3 mois que tu vas tout dégommer. Mais il y a eu ce moment un peu compliqué de dire est-ce qu'on va les avoir, est-ce qu'on va pas les avoir. Ouais. Le jour où on a su que les JO étaient reportés, ça a été déjà un énorme soulagement, parce que déjà dire, tout le monde était chez soi. Alors, il y en a qui ont de la chance. Moi, j'ai de la chance, j'ai une maison, un jardin, donc je peux faire des trucs chez moi. D'autres qui sont en appartement, voire même en difficulté comme ça, c'est pas la même vision. Donc déjà, on a eu ce côté où on dit, bon bah, déjà là, on va pouvoir se reposer, on va pouvoir mettre sa tête de côté, et puis on verra. Et là, maintenant, on est dans un... Alors, pour nous, en France, là, avec ce deuxième confinement, on a la chance, en tant que sportif professionnel de haut niveau, de pouvoir s'entraîner. Mmh. Donc, ce qui fait que dans l'absolu, honnêtement, moi, sur mon quotidien, ça change pas énormément, parce que bah, mon quotidien, de toute façon, il est d'aller au stade et de voir mon kiné. Et puis après, bah, forcément, il n'y a pas les loisirs à côté, il n'y a pas la balade, ce genre de trucs. Mais dire voilà, pour moi, c'est pas l'essentiel. L'essentiel, c'est vraiment de pouvoir aller m'entraîner au stade.
Donc à partir pendant le premier confinement, tu t'étais vraiment arrêté complètement de t'entraîner.
Alors pour le premier confinement, c'était particulier, c'est que le jour où je devais reprendre les entraînements, c'est le jour où on a été confiné. Donc ce qui était, c'était le fait du destin. Et donc du coup, on a avec mon coach, on s'est dit bon, on va prendre le temps, on va voir un peu comment ça évolue. Et puis je me suis entraîné, on va dire de manière assidue pendant une grosse dizaine de jours. Jusqu'à ce que l'info des JO. Une fois que les JO ont été reportés, là on s'est dit bon bah on y va tranquille, on fait du plaisir. Et puis donc j'ai toujours maintenu une activité sportive, mais bien loin de l'intensité et de la rigueur que je peux avoir en temps normal, parce que je me suis dit c'est aussi une opportunité pour mon corps de se reposer un petit peu vu les quelques galères que j'avais eues les années précédentes. Et au final, ça, dans l'absolu, ça m'a fait du bien, parce que ça fait plus de 6 mois où j'ai aucun pépin physique, musculaire, alors que depuis 3 ans j'avais toujours des petits trucs. Donc l'absolu, ça m'a pas fait de mal, quoi. Et pour la petite anecdote, ce qui est marrant, je sais pas si c'est marrant, mais en tout cas le jour où je devais reprendre ma préparation pour 2021, c'était encore le jour du premier confinement. ça m'a vraiment fait sourire. Donc en fait, quand je reprends les entraînements, c'est là où on a virtuellement...
On se reconfine, quoi. Tu nous préviens la prochaine fois, s'il te plaît, à l'avance, quand t'as pas évité de te remettre.
J'espère que la prochaine fois, on n'aura pas ce souci là, quoi. Mais ce qui fait que ouais, clairement là tout de suite, on a cette chance là de pouvoir s'entraîner, et à côté de ça. Maintenant on peut être sûr de rien, mais a priori quand même les JO devraient avoir lieu, quand on voit aussi l'évolution des vaccins, etc. Donc même s'il y a tout un truc qui tourne autour des vaccins, mais on sait que pour nous en tant qu'athlètes, d'ici les JO qui sont en juillet 2021, on devrait avoir des solutions viables pour mettre tout le monde en sécurité d'un point de vue sanitaire, et faire en sorte que la compète puisse avoir lieu. Donc
ouais, après, puis c'est plus sympa que, tu vois, parce que si ça avait eu lieu d'une certaine manière, tu vois, en étant hyper confiné, enfin, je veux dire, ça aurait pas été possible, mais ça aurait pas été la même ambiance non plus, j'imagine.
Non, parce qu'il faut, quand même que, voilà, c'est un événement qui se prépare depuis plusieurs années, et tu peux pas te dire, voilà, ça fait 3 mois que j'ai pas pu m'entraîner parce que j'étais chez moi, etc. Et à côté de ça, t'en as un qui est chez lui, qui a tout un setup et qui fait tout. Donc, voilà, il y a aussi ce côté équité qui fait que, peut pas faire n'importe quoi. Là, la seule question qu'on a tout de suite, c'est de savoir, pour nous, par exemple, en athlée, on a des compétitions qui devraient avoir lieu en hiver, entre janvier et mi-mars, et c'est de savoir est-ce qu'elles vont vraiment avoir lieu, est-ce qu'on va vraiment pouvoir faire des compétitions, parce que si on n'a pas de compétition, on peut pas mettre en application tout le travail qu'on a fait à l'entraînement, et vraiment, c'est une perte de rythme pour la préparation. Mais voilà, actuellement je dirais que pour nous on est quand même dans une bien meilleure disposition que ce qu'on a été il y a 6 mois, mais voilà, on sait que à tout moment ça peut rebasculer, donc on fait aussi attention. Mais ouais, non, c'était une période un peu compliquée, parce que même on a vu alors les hommes sont un peu moins concernés, mais on voit surtout souvent sur les femmes il y en a beaucoup qui se sont dit je fais le maximum pour aller jusqu'à Tokyo, et puis après voilà, je passe à une autre vie, notamment avec une grossesse, etc. Et puis bah il y en a où ça a été synonyme de fin de carrière, parce qu'elles ne voyaient pas attendre une année de plus, et voilà, c'est des choix qui sont compliqués, et forcément quand tu arrives à un dirais un certain âge sportif, hein.
Quand ouais, tu chaque mois compte, quoi.
Non, mais c'est ça. Donc c'est vrai qu'après, tu te dis, il faut repartir encore pour 12 mois, avec toute l'incertitude qu'il y a, en plus, à la période où on était. C'est compliqué, mais bon, voilà, il faut la beauté aussi du sport et dans de beaucoup de secteurs aussi, c'est d'être capable de s'adapter, quoi. Donc, celui qui s'adaptera le mieux, généralement, c'est celui qui est le meilleur, quoi.
Écoute Renaud, pour terminer, j'ai quelques dernières questions. C'est des questions que je pose à chaque fois, mais qui sont intéressantes parce que c'est des questions, tu verras, un petit peu perso. La première, tu m'as un peu répondu, je pense, mais n'hésite pas si tu as un autre exemple ou si tu peux approfondir. C'est est-ce que tu as vécu un vrai échec? Et en fait, la raison pour laquelle je te pose cette question, c'est pas tellement pour que tu me parles de l'échec, mais c'est plus pour me parler de ce que t'as ressenti, mais surtout, en fait, quel enseignement t'en as tiré. Parce que, une fois de plus, tout l'objectif du podcast, c'est de pouvoir partager pour que d'autres personnes puissent appliquer ensuite, tu vois, ces enseignements à leur propre vie. Et je me dis que je suis sûre que tu as plein de choses à partager.
Oui.
Parce que les sportifs ont en général des échecs, malgré les victoires, ils en ont connu.
Oui. Il y en a toujours. Après, il y en a qui sont... Il y a des échecs qui sont plus ou moins marquants, on va dire.
Ouais.
Mais moi, je sais qu'il y en a un qui est arrivé dans le début de ma carrière, qui a été vraiment une pièce maîtresse de l'après. C'était les championnats du monde en salle à Doha, qui était en 2010, en mars 2010. Et j'avais la deuxième perf de l'hiver, donc j'étais normalement, je devais faire podium. Et en fait, sur la compétition, je me rate totalement en qualification, je passe pas la qualif, donc je suis pas en finale et donc du coup j'ai regardé la finale depuis les tribunes et donc ce qui a été un moment mais terrible, mais à la fois en plus le pire c'est que le pire dans tout ça c'est que bon celui qui a gagné avait vraiment bien sauté, je pense que j'étais peut-être pas encore au niveau de pouvoir le battre, mais par contre après le deuxième et le troisième ça avait fait je crois 5m70 et 5m65 et donc bah voilà je savais que j'avais je le faisais tous les jours, donc j'avais vraiment ce podium qui aurait pu me tendre les bras qui est pas arrivé. Et derrière quand j'ai regardé ce concours les gars sauter, je me suis promis que celui-là j'allais pas l'oublier, quoi. Et derrière c'était quoi, 6 mois après, même moins que ça, pendant tout l'été, je crois 2010, de ma première compétition jusqu'au championnat d'Europe qui était à Barcelone, j'ai pas perdu une seule compétition jusqu'à gagner les championnats d'Europe. Et ça, c'est vraiment, j'ai puisé là-dedans dans cette énergie que j'ai pris en me disant non, ça c'est pas moi, je peux pas, quoi.
Et tu sais pourquoi tu t'étais foiré cette fois-là, c'était juste
Ah oui, je le sais bien, ouais. Je sais bien, c'était un truc en fait, c'est du technique un petit peu, mais ce qu'il y a c'est que au saut à la perche, on a des perches qu'on choisit la taille, on choisit la dureté, et en fait donc j'avais passé 5m45 et derrière je me retrouve à 5m60 et en fait à 5m60 je me retrouve avec une perche avec laquelle un an auparavant j'avais déjà fait 6m, et donc du coup normalement avec cette perche là je passe 5m60 tous les jours sans problème. Et en fait manque de peau entre guillemets, j'étais vraiment bien préparé, j'étais vraiment bien en forme et ma perche s'est retrouvée un peu trop souple. Alors sur le premier saut, je me dis c'est peut-être moi qui est un petit peu moins bien sauté et qui du coup qui est pas vraiment bien utilisé ma perche. Donc je vais regarder celle-là parce que derrière en fait j'avais une perche qui était plus grosse, mais je crois que j'ai pris, je crois que j'avais jamais prise d'ailleurs, ou peut-être une seule fois. Ah, donc ouais. C'est pas forcément le truc où tu dis en qualification, en sachant que la qualification faut être juste dans les 8 premiers ou les 12 premiers. Avec
pas le moment de tenter des nouveaux trucs, 70.
Ouais, c'est pas là où tu te dis je mets toute l'artillerie et puis c'est parti. Donc c'était un peu déstabilisant, quoi. Et donc du coup je rate ce premier, je rate ce deuxième pareil, et en fait je fais 3 sauts quasiment identiques et derrière après ce qui m'a servi c'est de me dire voilà, c'est pas parce que on est sur telle ou telle perche que je vais forcément être capable de faire telle performance. Faut vraiment s'adapter, et là dans l'absolu j'ai pas été capable de m'adapter par rapport à mes conditions physiques perso, et donc derrière après je m'en suis énormément servi, et ça m'a vraiment servi pendant plusieurs années, quoi.
Hyper intéressant. S'il y avait quelque chose à refaire, ça peut être dans ta vie perso ou dans ta vie pro, qu'est-ce que tu referais différemment?
Ah, c'est une bonne question. Parce que si on refait quelque chose, normalement, ça change la
c'est ça, peut-être que tu ne veux rien changer.
Donc, bah, après, je dirais même sur des décisions ou quoi, dans l'absolu, j'ai pas grand chose à regretter de ma vie parce que là où je suis actuellement, j'ai vraiment pas à me plaindre. Donc, non, franchement, non, je garde ce que j'ai fait, même s'il y a des trucs qui sont pas bien, mais je les garde quand même.
Tu gardes tout, tant mieux. Est-ce qu'il y a, je sais pas, une maxime, des mots de sagesse ou juste un message qui te tient à cœur, tu vois, de je sais pas, un enseignement de vie que tu pourrais nous partager pour l'audience, justement, qui te semble important?
Alors, je suis pas un grand littéraire.
Non, mais ça fait de toi, tu vois.
Je vais pas sortir des grandes phrases ou quoi, mais... Non, après, ma philosophie de vie, c'est jamais de baisser les bras et de d'en vouloir toujours plus, entre guillemets. Donc, pour moi, la devise, c'est ça, c'est de l'ambition et la devise toujours plus vite, toujours plus haut, toujours plus fort, c'est quelque chose qui est vraiment, qui a vraiment du sens parce que voilà, c'est pour moi, c'est le but, quoi, c'est d'en vouloir toujours plus, quoi.
Mais tu te rends compte, surtout, moi, je repense là à ce que tu me disais au début de l'interview quand tu me parlais de tes débuts, du fait que tu n'étais pas si bon que ça et qu'en fait, tu as eu ce rêve. Mais moi, je me dis, c'est quand même fou de se dire que ben, non seulement tu as réussi, mais t'es... parce que justement, tu voulais aller toujours plus haut, toujours plus vite, toujours plus fort et que tu t'es pas arrêté aux quelques obstacles et aux difficultés, au fait que tu n'étais pas forcément le meilleur du meilleur tout de suite. On t'en est là où t'en es aujourd'hui, quoi. Et donc, en fait, ce qui est génial, c'est que ça augure pour encore de très grandes années derrière toi, j'espère.
On espère. Si le corps y suit, normalement, ça ira.
Écoute, et ma dernière question, alors tu dis que t'es pas un grand littéraire, mais peut-être quand même, ça peut être un film, ça peut être un livre. Est-ce qu'il y a vraiment un livre, un film, même peut-être une musique, je sais pas, ça dépend ce qui te plaît le plus, qui t'ont particulièrement marqué et dont tu pourrais me parler juste parce que ben, t'estimes que c'est vraiment un livre ou un film qui a eu un impact important, tu vois, sur ta vie, sur ta carrière.
J'ai eu un film que j'ai regardé plusieurs dizaines de fois, notamment beaucoup en veille de compétition. C'est La Légende de Bergrevens avec Will Smith et Matt Damon.
Ah, je l'ai pas vu.
Et c'est un film qui
est, enfin, pour moi,
c'est sur du golf, ouais. C'est sur du golf dans les années 30, je crois. Et en fait, c'est, alors, déjà, bon, j'aime énormément les deux acteurs. Je dirais, enfin, la narration, la façon dans laquelle c'est filmé, l'histoire en elle-même est vraiment intéressante, vraiment vraiment énorme. Et ah, je sais pas, à chaque fois que je le regarde, j'ai des émotions. Ça m'arrive quelquefois limite d'avoir la larme aux yeux à la fin, parce que c'est vraiment prenant, et parce que voilà, il y a vraiment ce côté mental qui prend le dessus. Voilà, ça peut être avec du golf, mais je dirais peu importe la discipline qui peut être pratiquée, tous les grands champions à un moment donné ont ce côté où bah, ils sont face à leur destin, ils sont face à ce qu'ils peuvent faire, ce qu'ils peuvent devenir, et c'est à eux de choisir. Et là, vraiment, enfin, je trouve que ce film met vraiment ça en lumière, le côté où ta boîte au fond du trou, c'est juste toi qui décides si tu continues à creuser ou si tu sors ton échelle, quoi. C'est vraiment un film que j'ai énormément apprécié et que j'ai regardé des dizaines, je pense que j'ai regardé peut-être même plus d'une centaine de fois sans trop de difficulté.
Bon, bah, je sais déjà quel est le prochain film que je vais regarder du coup. Merci Renaud, franchement c'était génial cette interview, je te remercie pour ton temps.
Super.
Si on veut te suivre sur les réseaux, dans le monde merveilleux du web, je suis peut-être active sur Insta. R. Lavillény, c'est ça, AIR.
C'est ça, ouais.
Et sinon, tu as d'autres endroits où tu aimes bien que les gens te suivent, te contactent?
J'ai les trois plateformes, on va dire, principales, Instagram, Facebook, Twitter. Donc voilà, après, Dans l'absolu, je relaie à peu près les mêmes informations, les mêmes infos dessus, et puis voilà. Puis après, c'est surtout sur les compétitions. J'espère qu'on va être suivi en fonction des compètes qu'on va pouvoir avoir. Mais bah, mi-fin janvier, je devrais être de retour aux affaires pour avoir une belle saison en salle avant de se préparer pour Tokyo cet été, quoi.
Écoute, c'est tout ce que je te souhaite. En tout cas, je te remercie vraiment, vraiment pour ton temps. C'était génial. Merci d'avoir accepté. Et puis voilà. Et je te dis certainement à très, très bientôt.
Eh bien, merci beaucoup.
Et voilà, fini pour aujourd'hui. J'espère que l'épisode vous a plu. Merci d'avoir passé tout ce temps avec moi. Et quelques petites choses avant de vous quitter. D'abord, si vous cherchez les notes de l'épisode avec toutes les références, bah c'est simple, allez directement sur le blog du podcast. Donc c'est www.le-du6gratin.fr. Vous trouverez normalement toutes les infos dessus. Aussi, si vous souhaitez me contacter pour me poser d'autres questions, que je mettrai d'ailleurs peut-être un jour sur le podcast, ou me proposer de nouveaux invités, ou juste me faire un feedback, me proposer un livre, peu importe à la rigueur, et bien surtout, n'hésitez pas à le faire. J'aime bien répondre. J'essaye d'être assez active sur les réseaux sociaux et en particulier sur LinkedIn et sur Instagram, qui sont mes deux réseaux sociaux de prédilection. Donc, sous le pseudo Pauline Legnaud, tout attaché, c'est très simple. Dernière chose, un truc qui compte énormément pour moi, et je sais que c'est pénible à faire, mais vraiment ça compte, c'est si vous me laissez une note 5 étoiles ou que vous parlez du podcast autour de vous ou que vous mettez un avis. Et la note 5 étoiles, c'est en particulier sur Apple Podcasts, sur iTunes. Pourquoi ? Parce que c'est là qu'il y a le plus d'écoute, et avoir des notes, en fait, permet de donner plus de visibilité au podcast. Donc vraiment, vraiment, n'hésitez pas. Et si on est si nombreux aujourd'hui à écouter Le Gratin, à faire partie de cette communauté, bah, c'est grâce à vous et justement à toutes ces personnes, c'est plus de 3000, 4000 personnes qui ont à chaque fois pris le temps de mettre des notes, donc ça m'aide beaucoup et merci à eux. Comme à chaque fois, vraiment un grand grand merci de m'avoir écouté jusqu'ici, j'espère que l'épisode vous a plu et je vous dis à très bientôt.